Ilana Ferradio.
Il est 8h, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous comme chaque matin. Et oui, tous les matins, nous nous retrouvons. Nous sommes le jeudi 25 avril 2024, 202e jour de guerre contre le Hamas et toujours 133 otages dans la bande de Gaza. On va faire évidemment le point de l'actualité avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana.
Et vous savez que je viens de me rendre compte que j'ai pas dit bonjour à Ben ce matin très tôt. Bonjour Benjamin.
Bonjour à vous.
À la réalisation, effectivement, et oui, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire.
Bah sans lui, on parle dans le vide.
Donc merci Ben d'exister.
Mais avec plaisir.
Merci d'être là. Et effectivement, nous sommes encore avec vous les amis pendant une heure d'actualité. Nous serons aussi avec Mickaël Zaffron à partir de 6h20 pour parler d'une soirée de 8h20, pardon, pour parler d'une soirée exceptionnelle de Yom HaSmaout. Ce sera à 8h20, effectivement. 8h30, notre invité David Benaïm, journaliste, ancien correspondant aux États-Unis pour évoquer ce qui se passe aux États-Unis, notamment à l'université Columbia. Et puis, comme chaque jour, nous serons aussi avec le docteur Serge Raffal. Et ce matin, on va parler des bienfaits santé des fruits rouges, et en particulier de la fraise. Et oui, l'été approche. Mais d'abord l'actualité à la une, Eva. 202e jour de guerre contre le Hamas et le groupe terroriste qui a publié la vidéo d'un otage.
Celle de Hersh Goldberg Pauline, le jeune israélo-américain, y apparaît pâle, amaigri et sa main semble amputée. Dans un message dicté par le Hamas, il demande au gouvernement israélien de le ramener chez lui. Son cri, c'est celui de tous les otages. L'État d'Israël n'a plus de temps à perdre, a commenté sa famille. Correspondance à Jérusalem, Olivier Granilic.
Nous sommes ici aujourd'hui avec une prière pour tous les dirigeants des partis qui ont mené des négociations jusqu'à présent. Soyez courageux, profitez de ce moment et concluez un accord pour nous unir avec tous nos proches, mettre fin à la souffrance dans cette région, a déclaré le père du jeune otage. Et la maman de Hirsch a ajouté: Hirsch, nous avons entendu ta voix aujourd'hui pour la première fois depuis 201 jours. Et si tu peux nous entendre, nous te disons, nous t'aimons, sois fort et survie.
Notre correspondant à Jérusalem, Olivier Granilic, à Jérusalem, où des manifestants, après la diffusion de cette vidéo, se sont opposés à la police pour réclamer un accord sur les captifs et des familles, ont aussi bloqué cette nuit des camions d'aide vers la bande de Gaza. Selon l'un de ses responsables, le groupe terroriste du Hamas serait finalement prêt à relâcher 40 otages dans le cadre d'un accord avec Israël.
Et puis sur le front nord, de nouvelles attaques du Hezbollah hier avec des tirs de missiles, mais la moitié des commandants du groupe terroriste, la moitié ont été éliminés.
Et oui, Tsahal a frappé pour la seule journée d'hier 40 cibles du Hezbollah au sud Liban. Yoav Gallant a été rendre visite au commandement de la région nord. L'objectif principal, a dit le ministre de la Défense, c'est de permettre aux Israéliens du nord de rentrer chez eux. 80 000 n'ont pas pu le faire depuis le 7 octobre.
Et puis sur le front sud, le chef d'état-major de Tsahal et celui du Shin Bet se sont rendus en Égypte hier à propos de la prochaine opération contre le Hamas à Rafah.
Au Caire, le général Herzi Halevi et Ronen Bar ont rencontré le chef des renseignements et d'autres responsables égyptiens. Rafah est tout au sud de la bande de Gaza et le Caire rejette toute entrée sur son territoire de Palestiniens déplacés à cause des combats. Par ailleurs, concernant les accusations sur un charnier découvert à l'hôpital Nasser de Khan Younes après la fin de l'opération de Tsahal, il s'agit d'une campagne de désinformation pour délégitimer Israël, a répondu Tsahal, l'armée qui a publié les preuves que les tombes avaient été creusées par les autorités gazaouies elles-mêmes il y a quelques mois.
La loi d'aide des États-Unis à ses alliés promulguée hier après son vote au Sénat.
17 milliards de dollars seront destinés aux États-Unis. C'est félicité le ministre des Affaires étrangères israélien qui a remercié le président américain. Notre alliance est à toute épreuve. C'est félicité Israël Katz sur le réseau social X. De son côté, Joe Biden a pris la parole hier. Le président Biden qui a aussi proposé une enveloppe de 95 milliards avec des aides à Taïwan, à la Chine et à l'Ukraine.
L'actualité en France, la police a délogé dans la nuit des étudiants pro-palestiniens qui avaient installé des tentes dans la cour de Sciences Po Paris.
Sur le modèle des facs américaines, ils réclamaient que Sciences Po coupe ses liens avec les universités qu'ils considèrent comme complices de ce qu'ils appellent le génocide à Gaza. Et aux États-Unis, le mouvement anti-israélien prend de l'ampleur et touche aussi désormais le campus de Yale dans le Connecticut.
Et puis enfin en France, une enquête pour association de malfaiteurs terroristes ouverte hier après l'arrestation d'un mineur de 16 ans en Haute-Savoie.
Il est suspecté d'avoir voulu commettre un attentat djihadiste pendant les JO de Paris. Le jeune homme a reconnu les faits durant sa garde à vue. Il a été repéré grâce à des messages inquiétants sur une chaîne Telegram. Maître Muriel Waknin-Melki de l'OJE.
Le dernier projet, c'est un mineur de 15 ou 16 ans qui s'est mis en tête d'organiser un attentat.
À Marigny, en Haute-Savoie.
Exactement. Donc on voit bien pourquoi le législateur a prévu cette peine aussi lourde et pourquoi il est important de faire attention aux propos que l'on peut tenir quand on est une personnalité publique ou lorsque l'on est sur les réseaux sociaux et que la parole se démultiplie de manière exponentielle.
Maître Muriel Waknin-Melki par rapport aux précautions liées aux peines d'apologie du terrorisme.
Il a noté qu'un jeune de 16 ans suspecté d'avoir projeté une tuerie de masse dans un lycée d'Antibes a été arrêté lundi à sa sortie de l'hôpital psychiatrique. Merci beaucoup Eva Soto, Eva qu'on retrouve tout au long de cette édition. Un point sur la météo. Ce jeudi, le temps est très frais, parfois brumeux sur l'Hexagone. On entend encore des gelées au sol sur les régions centrales. Météo instable également au sud avec beaucoup de vent. À Paris, il fait seulement 2 degrés ce matin, 14 dans l'après-midi, 18 à Marseille. Ce sera d'ailleurs le maximum. Et puis en Israël, de plus en plus chaud, des températures caniculaires, 36 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv, 41 degrés à Eilat.
Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian.
Et un point sur l'infotrafic en région parisienne, sur la ligne 11. Trafic interrompu jusqu'au 27 avril entre Belleville et Mairie des Lilas. En raison de travaux, des bus de remplacement sont mis à votre disposition. Sinon, c'est plutôt calme pour l'instant. Et puis, sur les routes d'Île-de-France, fermeture toujours de l'autoroute A13 dans les deux sens de circulation entre Paris et Vaucresson. Et jusqu'au 30 avril, donc il convient de reporter tout déplacement conduisant à traverser ce secteur. Et puis, ça se passe en ce moment sur l'A3. Circulation difficile sur l'autoroute A3 vers Paris, entre Aulnay-Garonne-Nord et Porte de Bagnolet en raison d'un accident. Un véhicule léger impliqué, ce qui a provoqué aussi un incendie. Prudence.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci d'être avec nous sur Radio J. Comme chaque matin, ce jeudi 25 avril, 202e jour de guerre contre le Hamas. Et nous retrouvons à Jérusalem après ces fêtes de Pessah, de Yom Tov. Pascal Zonshine, bonjour Pascal.
Bonjour Ilana.
Merci d'être avec nous et on espère que vous avez passé effectivement de bonnes fêtes en Israël avec nous comme chaque matin pour faire le point de l'actualité. Alors d'abord sur le terrain, sur le front nord, Pascal, de nouveaux missiles du Hezbollah hier notamment et la riposte de Tsahal.
Oui, pas de répit, ni au sud, ni au nord. Toujours des tirs du Hezbollah sur la Haute-Galilée et le nord du Golan. À Avivim, deux maisons ont été touchées, gravement endommagées. À Margaliot, c'est l'alimentation en électricité qui a été coupée. Dans le secteur de Majel Shams, sur le plateau du Golan, plusieurs roquettes sont tombées en zone inhabitée. Les attaques d'hier n'ont pas fait de blessés. Tsahal a effectué des frappes d'une intensité inhabituelle au sud Liban, avec 40 sites du Hezbollah visés presque simultanément. Depuis le début de la guerre, la milice chiite pro-iranienne a tiré plus de 4000 roquettes et 600 missiles anti-chars sur le nord d'Israël. Hier, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui s'est rendu sur le front nord, a affirmé que la moitié des commandants locaux du Hezbollah avaient été tués depuis le mois d'octobre et que l'autre moitié se cachait pour échapper aux frappes de Tsahal. Au sud, le Hamas a repris ses tirs de roquettes depuis le nord de la bande de Gaza. Au moins 8 roquettes ont visé la ville de Sderot et ses environs depuis lundi. Il y a eu des dégâts matériels, mais pas de blessés. Tsahal a effectué plusieurs opérations ponctuelles dans le nord et le centre du territoire côtier. Lundi, un réserviste de Tsahal, le sergent-chef Salem Al-Kreshat, 42 ans, un éclaireur bédouin de Tsahal, a été tué en opération à Beit Hanoun, dans le nord de Gaza. Et l'on reparle à nouveau d'une opération terrestre à Rafah, le dernier bastion du Hamas au sud de Gaza. Hier, le chef d'état-major de Tsahal, Herzi Halevi, et le directeur du Shin Bet, Ronen Bar, se sont rendus au Caire pour des entretiens avec le chef des services de renseignement égyptien Abbas Kamel. au centre de leurs discussions les modalités d'une intervention militaire à Rafah qui devra éviter un flux massif de population palestinienne vers l'Égypte et l'évacuation des civils vers le centre de la bande de Gaza. Les entretiens ont également porté sur les options d'une reprise des négociations en vue d'une trêve à Gaza. Discussion dans l'impasse depuis le rejet par le Hamas de la dernière proposition de compromis présentée par les pays médiateurs. Et alors qu'hier, l'organisation terroriste a diffusé la vidéo de l'otage Hersh Goldberg-Polin, un jeune américano-israélien de 23 ans, capturé le 7 octobre au Festival Nova. Le jeune homme, visiblement très affaibli et dont la main gauche a été amputée, appelle à la libération des otages. Sa famille a autorisé la diffusion des images. Le cabinet de guerre et le cabinet de sécurité doivent se réunir aujourd'hui pour étudier les options d'une possible reprise des négociations.
Effectivement, on parle des otages. Ça fait aussi partie, Pascal, de cette guerre psychologique, hein, toujours du groupe terroriste. Et aujourd'hui, par ailleurs, c'est vrai qu'on est sans nouvelles. Apparemment, 40 otages seraient seulement en vie sur les 133 restants.
Des affirmations invérifiables, évidemment, qui émergent régulièrement dans différents médias étrangers. En tout cas, évidemment, une préoccupation croissante en Israël pour le sort de ces otages. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré hier soir le porte-parole de Tzal dans une déclaration pour la presse étrangère, en rappelant qu'il fallait évidemment agir vite et que Tzal ferait tout pour retrouver les otages partout à Gaza. Et que, évidemment, ces images du jeune otage qui ont apparemment été enregistrées dans les jours qui ont précédé la fête de Pessah, ces images sont évidemment encore un rappel de la cruauté et de la barbarie du Hamas. Et le porte-parole de Tzal, le général Daniel Hagari, a rappelé évidemment les massacres du 7 octobre, le sort des otages. Alors donc que le gouvernement doit se réunir et on a vu hier à Jérusalem, près de la résidence du Premier ministre et à Tel Aviv, des centaines de personnes qui ont manifesté pour appeler à la libération des otages le plus vite possible.
Eva Soto pour Pascal Zunshine.
Bonjour Pascal.
Bonjour Eva.
Une interrogation par rapport au rôle du Qatar après les propos choc du représentant qatari de la Ligue arabe, Essa Al-Nasser, qui a affirmé que le 7 octobre n'était qu'un début et parlant des Israéliens a affirmé qu'ils étaient des tueurs de prophètes en disant même qu'ils avaient tué le Christ, des propos antisémites qui ont aussi forgé la haine des Juifs en Europe. Dans ce contexte, comment envisager le rôle du Qatar et est-ce que ces propos ont de l'importance dans les négociations en cours ?
Oui, ces propos ont de l'importance dans les négociations aussi dans la mesure où le Qatar envoie déjà depuis plusieurs jours des signaux indiquant qu'il pourrait se retirer des négociations, abandonner son rôle de médiateur entre le Hamas et Israël. Alors c'est dû évidemment à un certain nombre de facteurs, le fait notamment que le Qatar pour l'instant ne réponde pas aux pressions des États-Unis qui demandent justement au Qatar lui-même de faire pression sur le Hamas puisqu'il est là en position en quelque sorte privilégiée puisque c'est le Qatar qui héberge depuis plusieurs années maintenant la direction extérieure du Hamas alors que le Hamas lui-même envisagerait de quitter le Qatar justement pour anticiper une possible expulsion et regarde du côté de la Turquie, du Sultanat d'Oman et même de l'Algérie qui serait susceptible d'accueillir la direction politique du Hamas. Donc le Qatar qui se retrouve maintenant dans une position ambiguë dans la mesure où justement il n'a finalement pas réussi à obtenir la moindre concession du Hamas, dont on sait évidemment qu'il a là aussi un rôle. Les relations sont plus qu'ambiguës entre le Hamas et le Qatar, qui joue sur les deux tableaux, à la fois sa protection de l'organisation terroriste et en même temps sa, en quelque sorte, vitrine de légitimité vis-à-vis des pays occidentaux. Donc là encore aussi un élément qui vient compliquer ces négociations toujours bloquées sur l'obtention d'une trêve et les conditions pour la libération des 133 otages israéliens.
Et puis Pascal, Benjamin Netanyahou a pris la parole hier soir par rapport à ce qui se passe sur les campus américains.
Oui, le Premier ministre israélien a évidemment condamné ces manifestations, ces intimidations et ces violences verbales et aussi parfois physiques contre les étudiants juifs sur les campus américains, en disant que c'était absolument inconcevable que ces manifestations devaient non seulement être condamnées mais réprimées, et rappeler aussi malheureusement, c'est une leçon de l'histoire. C'est ainsi aussi que les choses avaient commencé au début des années 30 en Allemagne, avec l'émergence de l'antisémitisme dont on connaît évidemment la suite.
Merci Pascal, à tout à l'heure.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
8h15, le rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le 202e jour de guerre contre le Hamas. Et hier soir, le groupe terroriste a publié la vidéo d'un otage, celle de Hersh Goldberg Pauline, le jeune israélo-américain. Il apparaît pâle, amaigri et sa main semble amputée. Dans un message dicté par le Hamas, il demande au gouvernement israélien de le ramener chez lui. Son cri, c'est celui de tous les otages, a commenté sa famille. Sur le front nord, Tsahal a frappé hier environ 40 cibles du Hezbollah au sud Liban. La moitié des commandants du groupe terroriste ont été éliminés. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Défense, Yoav Gallant. Sur le front sud, le chef d'état-major de Tsahal et celui du Shin Bet se sont rendus en Égypte hier à propos de la prochaine opération contre le Hamas à Rafah. La loi d'aide des États-Unis à ses alliés promulguée hier après son vote au Sénat, 17 milliards de dollars destinés à Israël et 9 à Gaza. En France, la police a délogé dans la nuit des étudiants pro-palestiniens qui avaient installé des tentes dans la cour de Sciences Po sur le modèle des facs américaines.
Merci beaucoup Eva Soto. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera à 8h30 sur Radio J.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Radio J.
Et merci d'être avec nous, 8h16, c'est votre carte postale d'Israël, Micro-Sion avec Xavier Nataf.
Un voyage à Jérusalem marque certaines personnes plus que d'autres. Au cœur de la vieille ville de Jérusalem, le tatoueur chrétien copte Wassim Razouk poursuit l'héritage familial en tatouant des pèlerins, une tradition qui lui a été transmise par sa famille de génération en génération. Pendant des siècles, les visiteurs de la Terre Sainte, y compris les croisés, se sont fait tatouer un symbole chrétien pour commémorer leur visite. Les tatouages de pèlerinage chrétien remontent au début du 7e siècle à la propagation de l'islam en Égypte, qui, à l'époque, était une société principalement chrétienne copte. Après avoir été conquis par les armées musulmanes, de nombreux coptes égyptiens ont été forcés de se convertir à l'islam. Mais certains ont résisté et ont été tatoués par l'État avec une croix sur le poignet droit intérieur qui permettait de les identifier comme chrétiens. Au fil du temps, les chrétiens coptes ont adopté cette tradition et ont commencé à se tatouer une croix. Et pendant de nombreux siècles, les églises coptes ne permettaient l'entrée qu'à ceux qui pouvaient prouver leur identité chrétienne avec un tatouage. Aujourd'hui, juste à l'intérieur de la porte de Jaffa, dans la vieille ville de Jérusalem, se trouve donc ce petit magasin qui sert souvent de point de repère pour les guides touristiques qui s'arrêtent régulièrement pour expliquer l'importance historique et culturelle de l'endroit. La boutique de Wassim Razouk a été nommée parmi les 5 meilleures destinations au monde pour se faire tatouer. Paradoxalement, Israël est classé parmi les toutes premières destinations dans le monde pour le tatouage, alors que le judaïsme le proscrit formellement.
Micro-Sion, cette carte postale d'Israël vous est offerte par l'Organisation sioniste mondiale.
Le 6-9, Radio J.
Radio J.
Merci de nous rejoindre sur Radio J comme chaque matin. Et ce matin, plaisir de recevoir en studio et en direct le producteur Mickaël Safran, très engagé aussi pour Israël. Bonjour.
Bonjour Ilana.
Merci d'être Bonjour. Avec nous tôt ce matin. Alors Mickaël, on va parler de tout ce que vous organisez ces prochaines semaines pour la communauté et pour Israël. Mais d'abord, un mot de ce grand succès, c'est vrai, interminable. C'est la pièce que vous aviez produite au mois de février dernier. Et c'est pas terminé, hein. Vous étiez venu d'ailleurs il y a quelques semaines avec l'acteur Alex Todd, le réalisateur l'acteur Réhouven Bitan pour nous présenter donc ce ciné-théâtre exceptionnel. Donc à la fois, je le rappelle, des acteurs qui sont sur grand écran et qui viennent ensuite sur scène. Est-ce que vous êtes satisfait de l'accueil qu'a reçu Interminable? Et je le disais, donc c'est pas terminé. Quelle est la suite?
Alors oui, très honoré et très fier de comment ça s'est déroulé en fait. Ça s'est passé d'une façon assez inédite. C'est vrai qu'aussi le 7 octobre a un petit peu tout bousculé dans nos esprits et le public a répondu présent. Ouais. Le public a répondu présent. C'était des belles représentations. On a fait 4 représentations au mois de février. Et donc voilà ce concept immersif, on va dire, où les comédiens apparaissent sur scène à la fin de la projection du film. Je pense que c'était quelque chose qui était assez inédit et le public a répondu présent.
Ouais.
Et beaucoup n'ont pas eu l'occasion de le voir. Beaucoup n'ont pas eu l'occasion de se déplacer. Ça a fait tellement de bruit. Aussi grâce à vous, je l'avoue. On a fait un beau teaser qui a permis en fait à beaucoup de personnes de se rendre compte qu'ils avaient arrêté quelque chose.
Ouais.
Donc on s'est dit à l'occasion de Yom HaShoah, il faudrait faire quelque chose d'assez exceptionnel.
Alors justement, Yom HaShoah, c'est le 6 mai prochain.
Tout à fait, ouais.
Et vous allez reproduire Interminable, ça se passe toujours à l'espace Rachi.
Complètement, l'espace Rachi. Donc on fait donc une journée spéciale à l'occasion de Yom HaShoah. Une journée spéciale avec donc à 14h30 une projection pour les écoles.
C'est ça.
Et à 20h30 une projection pour le grand public.
C'est ça, donc 14h30, projection ciné-théâtre pour les écoles. Mais ça c'est toujours à l'espace Rachi. Hein.
Alors complètement, ouais, à l'espace Rachi, donc à 14h30. Et j'invite aussi d'autres écoles à nous contacter.
Ouais.
Ce n'est pas complet encore pour la projection de 14h30.
C'est-à-dire qu'il y a des écoles qui veulent emmener leurs étudiants.
Il reste encore, je pense, une petite cinquantaine de places, 60 places, peut-être pour 2-3 classes. Alors c'est principalement dans le programme de seconde ou de première, même des terminales, ça peut être même des classes plus jeunes, comme ça a été le cas aussi au mois de février. On a fait une journée spéciale, je crois que c'était le 8 février, une journée spéciale pour les écoles, avec les écoles Ozara Torah. Ça s'est très bien passé aussi. Il y a eu un écho très favorable. Et là, on espère que d'autres écoles pourront nous contacter aussi.
Mais c'est vrai que c'est important aussi d'entretenir ce travail de mémoire. Vous avez parlé
tout
du
7
octobre. C'est un bon moyen aussi d'enseigner aux plus jeunes, d'intéresser les enfants à ce qui s'est passé. Une pièce de théâtre, c'est vrai que c'est pédagogique, on va dire.
C'est pédagogique, déjà, premièrement. Et je crois que depuis, encore, on se le répète tous les jours, mais depuis le 7 octobre, il faut continuer à perpétuer en fin de compte ce devoir de mémoire et je pense qu'on n'en fera pas encore assez.
Ouais.
Donc il faut que tout le monde s'intéresse, les jeunes principalement, et là on parle des écoles juives principalement, mais moi j'invite aussi les écoles publiques.
Ouais.
À faire ce travail parce qu'il y a un gros travail à faire encore.
Alors ça, ce sera pour le 6 mai à l'occasion de Yom HaShoah, et vous travaillez aussi peut-être sur la province, peut-être que ça va être joué.
Alors oui, on a été contacté aussi par d'autres en collaboration, je dirais, avec des institutions en province, Carpentras, Avignon, Toulouse, Bordeaux,
ouais.
Lyon, Strasbourg, là. On a des contacts sérieux, et puis voilà, on devrait commencer une tournée en novembre.
Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être à Paris et de voir la pièce, donc c'est une bonne nouvelle.
Exactement.
Alors évidemment, une pièce qui est aussi jouée donc dans un contexte particulier, près de 7 mois après les massacres du 7 octobre. Et justement, vous allez aussi organiser une soirée pour Yom HaTzmaout, la fête de l'indépendance, 76e anniversaire de l'État d'Israël, au Casino de Paris et en soutien aux victimes du Hamas.
Exactement. Là, je reviens d'Israël depuis le 7 octobre. J'ai dû aller, je crois, si je dis pas de bêtises, 6 fois. 6 fois en Israël. Bon, j'ai ma famille là-bas, j'ai mes parents, j'ai mes enfants, et j'avais besoin de faire quelque chose en soutien aux familles des otages, en soutien en hommage aux victimes. Et donc voilà, je suis revenu en France et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Et donc pour Yom HaTzmaout, spécialement, cette soirée sera organisée donc au profit donc de deux associations qui me tiennent à cœur.
Ouais.
Je tenais vraiment à en parler. C'est le collectif 7 octobre que j'ai rencontré comme ça par hasard il y a quelques mois en étant sollicité pour aller faire du collage.
Ouais.
Et voilà.
Vous avez fait du collage ?
J'ai fait du collage. J'ai fait du collage comme ça. C'est tombé en pleine nuit comme ça. Bon, on m'a contacté un jour. On dit tiens, faudrait que tu viennes. Et puis je regarde de quoi il s'agissait. Et oui, c'était assez prenant. Et alors j'ai pas fait du collage personnellement. Parce que pour faire du collage, il faut être protégé aujourd'hui.
Ouais.
En France, c'est assez particulier. Et donc voilà, il y a de la protection pour ces gens-là, pour les personnes qui font du collage. Et donc j'étais un petit peu embrigadé dans cette histoire très sympathiquement, on va dire. Très sympathiquement, et j'ai eu l'occasion de rencontrer la présidente de cette association.
Aurélie,
exactement, Aurélie Assouline. Et ensuite, j'ai revu donc Céline Corsia, que vous connaissez tous, je pense.
Oui.
Et qui est aujourd'hui à la tête d'une association aussi qui s'appelle Israel Angels, où il dance again avec tout son staff, toutes ses amies, toutes ses copines, des mamans, mamans de Khayal aussi. Et donc, cette soirée-là, donc le 13 mai prochain au Casino de Paris, sera donc en soutien à ces deux associations.
Donc soirée exceptionnelle effectivement, donc au profit du collectif 7 octobre et de Israel Angels. Cérémonie de Yom HaZikaron évidemment qui suit, hein. Et là c'est l'occasion. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un concert de Tal Vaknin, je crois.
Exactement, c'est un artiste que j'ai rencontré en Israël.
Ouais.
Avec tous ces allers-retours que j'ai pu faire, et j'ai rencontré un artiste que je suis tombé vraiment dingue de ce chanteur et donc j'ai décidé donc de le faire venir à Paris. Il est très très proche, on va dire, de la communauté française, juive française, et
il parle français.
Il parle un petit peu français. Il parle un petit peu français, comme ça. Oui, on a tourné un petit teaser qui tourne en ce moment sur les réseaux où il se présente, et donc il nous fera un concert où il y a à l'occasion de Yom HaSmaout, après la cérémonie de Yom HaZikaron.
Effectivement. Donc ça, c'est pour la soirée du 13 mai, hein, c'est ça?
Lundi 13 mai au Casino de Paris.
Au Casino de Paris. Tal Vaknin, performance aussi artistique d'un artiste peintre.
Alors oui, quand j'étais en Israël, donc j'ai eu l'occasion de partir quelques jours, bon, à titre privé, mais aussi dans le collectif. Il y a eu un séjour qui a été organisé par le collectif il y a une quinzaine de jours. J'y étais, et Yehiel Attias, l'artiste peintre, était avec nous. D'ailleurs, on a été sur la place des otages, Kikar Khatoufim.
Ouais.
Et il a fait une œuvre. Alors, cet artiste, il est connu. Il a fait pas mal de plateaux télé.
Ouais. Yehiel Attias.
Yehiel Attias, oui, c'est celui qui avait détourné les dessins, les Magen David. Qui était sur Paris.
Ah, d'accord, ok.
Qui était, bon, des Magen David à la base. Je pense que ça concernait peut-être plutôt l'antisémitisme.
Ouais.
C'est plutôt. Et il a détourné ces dessins-là avec le petit ballon, avec l'enfant avec le ballon, donc a fait le. Ce dessin qui a fait le tour du monde. Et il a fait ce dessin sur la place des Khatoufim. Il l'a offert à.
Donc il y aura une performance inédite.
Sur place.
On ne sait pas encore ce
en
que
c'est. En live. On ne sait pas encore ce que c'est. En live. Pendant qu'il y aura certains discours, lui sera sur le côté de la scène, en train donc de faire une œuvre. En train de dessiner une œuvre sur place, et elle sera mise aux enchères au profit des deux associations.
Et alors, deux invités également, deux guests, dont un DJ, je crois.
Exactement.
C'est ça. David Louski et Nivedri.
Exactement. Donc, David Louski, un chanteur que j'apprécie énormément en France, chanteur donc franco-israélien, qui sera donc là, en première partie, en seconde partie, avec quelques petites surprises.
Ouais.
Et le DJ. Nivedri, qu'on peut trouver sur le clip avec Tal Vaknin, c'est un DJ que j'ai rencontré qui est mais absolument exceptionnel,
ouais.
Parce qu'il est aussi trompettiste.
Ah, d'accord.
Et il fait un show, donc dans la seconde partie, on voudrait, voilà, c'est parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'émotions, je pense, pendant toute cette première partie, avec la cérémonie de Yom HaZikaron, avec les différentes prières et les différents hommages pour les otages et pour les disparus. Je pense qu'on aura besoin en seconde partie de se lâcher un peu.
Effectivement, 76e anniversaire de l'État d'Israël au Casino de Paris. Donc ce sera le lundi 13 mai 2024. Si on veut prendre des places, comment ça se passe?
Sur le site du Casino de Paris.
Tout simplement,
sur le site du Casino de Paris.
Il
reste encore des places. Oui, on a lancé la billetterie. Moi, je vous invite à prendre votre place rapidement. Voilà, tout simplement.
Eh bien, merci beaucoup, Mickaël Zafran.
Merci à toi.
Un dernier mot, peut-être, il nous reste une minute. Alors, c'est vrai que je le disais, vous êtes très engagé pour l'État d'Israël et pour cause. Hein, vous avez notamment un de vos fils qui est combattant, je crois, dans l'armée israélienne. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ce matin, s'il nous écoute?
Bon courage. Bon courage. J'en parle pas beaucoup. C'est vrai que je crois que vous êtes un des seuls supports où j'en parle un petit peu. Aujourd'hui, ça devient presque compliqué.
Ouais.
De dire que son fils est combattant dans l'armée d'Israël, ça peut nous porter préjudice, ça peut nous causer des problèmes. On a traité mon fils de criminel de guerre. C'est très compliqué.
Mais c'est une fierté pour vous.
C'est une grande fierté. C'est le quatrième qui est engagé dans l'armée. J'ai quatre enfants. Les trois autres aussi ont combattu. Ça fait un peu bizarre de le dire comme ça à l'antenne, parce que j'en ai pratiquement jamais parlé.
Ouais.
Et voilà, ça reste mon petit jardin secret, on va dire. Mais bon, on en parle.
On leur souhaite le meilleur, en tout cas, et que cette guerre se termine au plus vite, en tout cas.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Mickaël Zafran.
Merci, Lana.
Et à très bientôt sur Radio J. Restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 9h.
Radio J, 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen.
Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi avec un invité.
Et je suis ravie d'être invitée à Radio J.
Des chroniques et un coup de cœur à vous faire découvrir.
Et ce temps de parole, honnêtement, est très précieux. Donc merci à vous.
À tout à l'heure.
Radio J.
Radio J.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.
Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Radio J. Il est 8h30, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci de votre fidélité. Tous les matins, nous sommes le jeudi 25 avril 2024 et en direct, on espère que vous avez passé de très belles fêtes de Pessard. Ce n'est pas terminé. On en parle sur Radio J. Et bien sûr, sur Radio J, on fait le point de l'actualité comme chaque matin avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le 202e jour de guerre contre le Hamas et le groupe terroriste qui a publié la vidéo d'un otage, celle de Hersh Goldberg-Polin, le jeune israélo-américain. Il apparaît pâle, amaigri et sa main semble amputée dans un message vraisemblablement dicté par le Hamas. Il demande au gouvernement israélien de le ramener chez lui. Son cri, c'est celui de tous les otages, a commenté sa famille. À Jérusalem, des manifestants se sont ensuite retrouvés pour s'opposer à la police et réclamer un accord sur les captifs. Des familles ont également bloqué cette nuit des camions d'aide vers la bande de Gaza. Sur le front nord, Tsahal a frappé 40 cibles du Hezbollah au sud Liban pour la seule journée d'hier. La moitié des commandants du groupe terroriste lié à l'Iran ont été éliminés. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui a été rendre visite au commandement de la région nord dans la soirée. Sur le front sud, le chef d'état-major de Tsahal et celui du Shin Bet se sont rendus en Égypte hier à propos de la prochaine opération contre le Hamas à Rafah. Au Caire, le général Herzi Halevi et Ronen Bar ont rencontré le chef des renseignements et d'autres responsables égyptiens. Rafah est tout au sud de la bande de Gaza et le Caire rejette toute entrée sur son territoire de Palestiniens déplacés à cause des combats. En France, la police a délogé dans la nuit des étudiants pro-palestiniens qui avaient installé des tentes dans la cour de Sciences Po Paris sur le modèle des facs américaines. Ils réclamaient que Sciences Po coupe ses liens avec les universités qu'ils considèrent comme complices de ce qu'ils appellent le génocide à Gaza. Et le premier ministre israélien en personne, Benjamin Netanyahou, a pris la parole à propos des mouvements anti-israéliens sur les campus aux États-Unis. Il estime que cela rappelle ce qu'il s'est passé dans les années 30 en Allemagne. En France, une enquête pour association de malfaiteurs terroristes ouverte hier après l'arrestation d'un mineur de 16 ans en Haute-Savoie suspecté d'avoir voulu commettre un attentat djihadiste pendant les JO de Paris. Le jeune homme a reconnu les faits lors de sa garde à vue. Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête. L'adolescent a été repéré grâce à des messages inquiétants sur une chaîne Telegram. Il cherchait à trouver de quoi confectionner une ceinture explosive en affirmant vouloir mourir en martyr. Un autre mineur de 16 ans suspecté, lui, d'avoir projeté une tuerie de masse dans un lycée d'Antibes. Il a été arrêté lundi à sa sortie de l'hôpital psychiatrique. Il s'était confié à son pédopsychiatre fin février qui avait signalé les faits. Des armes blanches, un gilet pare-balles ont été saisies chez lui et des croix gammées étaient également peintes sur les murs de son habitation.
Merci beaucoup Eva Soto. Eva, on vous retrouve tout à l'heure à partir de 9h sur Radio J.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci de nous rejoindre comme tous les matins. Merci d'être avec nous. Vous pouvez aussi nous regarder sur notre chaîne YouTube Radio J. Nous sommes en live. Et ne bougez pas, dans quelques instants, notre invité va en parler de ce qui se passe, effectivement, l'antisémitisme dans les universités, à la fois en France, mais aux États-Unis. Et justement, on va en parler avec David Benaïm, journaliste, ancien correspondant aux États-Unis, actuellement correspondant en Israël pour LCI. David Benaïm qui sera avec nous, qui nous parlera un petit peu de ce qui se passe à New York, à l'université de Columbia, la réaction aussi des profs, des présidents d'université et le climat pour les étudiants juifs. À tout de suite.
Radio J.
Bonjour, c'est Lise Gutmann.
Le 10-11, Lise Gutmann.
Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté.
Radio J.
Radio J.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.
Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Et ce matin, direction les États-Unis. On en parlait déjà au début de la semaine, les récents événements à l'université de Columbia. Lundi, un professeur israélien a été bloqué à l'entrée du principal campus de l'université à New York, alors que les manifestations anti-israéliennes se multiplient, continuent à secouer le campus. Un événement qui n'est pas isolé depuis le 7 octobre dans les universités où règnent les rassemblements antisémites et les apologies au terrorisme. Le 7 octobre s'apprête à être tous les jours. On soutient le combat du Hamas. Donnez-leur l'enfer, brûlez Tel Aviv jusqu'au sol. Ce sont les slogans que l'on a pu entendre effectivement la semaine dernière à Columbia. Et pour en parler, nous sommes avec le journaliste David Benaïm, spécialiste des États-Unis. Il y a été correspondant pendant plus de 20 ans et il est actuellement correspondant en Israël pour LCI. Bonjour David.
Bonjour Ilana.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors effectivement, vous avez brièvement entendu lundi déjà à propos de ce qui se passe actuellement au cœur de Manhattan. Lundi donc, Shai Davidai, un professeur israélien, a apparemment été interdit d'accès. Il y a un siège, hein, il faut le dire, depuis plusieurs jours. Aujourd'hui, qu'en est-il? Que demandent les manifestants? Quels sont les derniers événements?
Alors, le siège dure maintenant depuis plus d'une semaine. Il y a eu une tentative de la part de la police de New York de déloger les manifestants, mais ils ont quasiment instantanément replanté leurs tentes et leur zone dite de libération qu'ils ont renommée Université du Peuple, Université de la Palestine. Et en effet, avant-hier, le premier jour de Pessah, le professeur Shai Davidai, qui est juif israélien, s'est retrouvé malgré lui être la seule voix du corps professoral de Columbia à défendre les étudiants juifs. Il a été révoqué de ses droits de circuler librement sur le campus, son passe a été désactivé, situation totalement contradictoire. Il a interdiction de se rendre sur l'immense esplanade du campus où des centaines et des centaines d'étudiants se retrouvent et dorment sur place en chantant des slogans qui appellent la destruction d'Israël, soutiennent ouvertement le Hamas. Un siège organisé par une association étudiante, SGP, Student Justice for Palestine, il faut bien suivre ce nom, il faut bien aller voir sur ce qui passe sur les réseaux. Ils ont été maintes fois interdits par l'administration, avec des professeurs pro-palestiniens qui soutiennent les actions du Hamas ouvertement depuis 7 octobre et qui, eux, circulent encore librement sur le campus.
Alors, David, justement, on parle effectivement de ces slogans antisémites. Il y a de l'antisémitisme. En fait, ce sont des manifestations qui ont dégénéré. À l'origine, en fait, les manifestants demandaient la fin des investissements pour Israël, en fait, c'est ça, hein.
À l'origine, en effet, ils ont demandé la fin de tous les investissements et toutes les relations entre les différents campus, par exemple les programmes croisés entre Columbia University et Tel Aviv University, l'interdiction de faire du commerce avec Microsoft qui a des bureaux en Israël. Donc leur objectif, c'est vraiment d'empêcher tout commerce et tout échange avec tout ce qu'ils pourraient avoir avec Israël de près ou de loin. Mais quand on regarde vraiment, comme je vous disais, Student Justice for Palestine, et qu'on va directement à leur poste du 7, 8, 9, 10 octobre, on voit déjà que leur rhétorique n'est pas du tout sur le désinvestissement des campus, mais sur déjà de dénoncer Israël comme étant un état génocidaire, d'avoir pas du tout d'empathie à l'égard de ce qui s'est passé le 7 octobre, et une volonté de transmettre une information qui est de prendre tous les étudiants dans leur escarcelle et de fédérer autour d'eux les LGBT, les Noirs américains, les Natifs américains, toutes les minorités qui auraient pas été entendues, et de les réunir derrière eux. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à initier, à permettre en 2 minutes de déclencher toutes ces manifestations qui ont lieu en ce moment sur les campus.
Alors, on évoquait ce professeur israélien donc qui a été, son badge a été désactivé, vous en parliez. Le rabbin de Columbia a exhorté aussi la semaine dernière les étudiants juifs à quitter le campus jusqu'à ce que le calme revienne. On dit désormais que à Columbia, il y a plus d'étudiants juifs. Alors, quel est le moral des étudiants juifs? Comment ça se passe pour eux?
C'est pas facile, hein. Je parle avec beaucoup d'entre eux, ils décrivent une situation vraiment insupportable. Ils se font agresser verbalement, physiquement, ils se font cracher dessus. Ils sont empêchés de circuler, je vous le disais, librement sur le campus, à tel point que l'administration oblige tous les cours à être suivis en Zoom jusqu'à la fin de cette année universitaire. Vous imaginez des étudiants qui payent des dizaines de milliers de dollars pour s'enrichir intellectuellement et qui au final se retrouvent à prendre des cours par ordinateur alors que la majorité du corps enseignant se tient aux côtés des étudiants pro-palestiniens et leur prodigue des cours sur cette fameuse esplanade. Les juifs, eux, sont interdits d'y accéder. Un des étudiants me disait hier que sa grand-mère, en 1940, avait été interdite d'aller à l'école. Elle n'y a plus jamais remis les pieds. Il n'en revient pas de se retrouver dans une telle situation en 2024 et que l'histoire puisse à ce point potentiellement se répéter, c'est vous dire à quel point il y a un sentiment d'insécurité en ce moment.
Mais alors justement, ça c'est aussi incroyable, vous dites les professeurs sont en soutien aux étudiants pro-palestiniens. Il y a quelques semaines, des directrices d'université avaient démissionné après des accusations de laisser-aller d'antisémitisme dans les campus. Tous les professeurs sont du côté des Palestiniens. Comment ça se passe aussi pour le dirigeant de Columbia, le président de l'université?
La présidente de l'Université de Columbia, pour l'instant, elle est un petit peu en porte-à-faux. Je vous rappelle qu'elle a témoigné au congrès quasiment coordonné en synchro avec l'installation de cette tente sur Columbia University. L'immense majorité du corps professionnel et de l'administration est avec les étudiants pro-Hamas. C'est bien toute la racine du problème. Il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais c'est bien d'une gangrène méthodique depuis des années, depuis des décennies même, des universités avec des profs, des programmes qui prônent l'anticolonialisme, qui fédèrent, je vous le disais, autour d'eux, un antisionisme et de la cause palestinienne, toutes les minorités qui ont du mal à se faire entendre. Un petit exemple qui est quand même assez grave. Columbia a embauché fin 2023, après le 7 octobre, le professeur Mohamed Abdou, un anarchiste égyptien qui a exprimé dès le 7 octobre et continue d'assumer « Oui, je suis avec le Hamas, le Hezbollah et le djihad islamique ». Il a depuis été licencié d'après la présidente Shafik. Il continue pourtant de circuler librement sur le campus de Columbia, alors que Shahed Avidaï, vous en parliez, le professeur israélien, lui est interdit de rentrer sur le campus. Donc il y a une vraie problématique. Je vous rappelle quand même que c'est pas uniquement des slogans pro-palestiniens qu'on entend, ce sont des slogans, vous l'avez dit en introduction, pro-Hamas, brûler Tel Aviv, Hamas nous témoin, et qui appelle à se souvenir que le 7 octobre se reproduira pas 10 fois, 100 fois, 1000 fois, mais 10 000 fois.
Alors, des réactions jusqu'au sommet de l'État et à l'étranger, en Israël, il y a eu beaucoup de réactions. On l'apprenait notamment hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui a déclaré que les mouvements anti-israéliens sur les campus américains rappelaient ce qui s'était passé dans les années 30. On avait aussi entendu un petit peu plus tôt, la semaine dernière, le président israélien Yitzhak Herzog. Comment ça se passe aux États-Unis? On sait que les membres juifs du Congrès ont demandé de protéger les étudiants juifs. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a eu d'autres réactions du gouvernement américain?
Alors, il n'y a pas de consensus du tout des politiques américains à condamner cette situation. Hier, les républicains sont plus enclins à le dénoncer. Hier, Mike Jackson, c'est le patron de la droite au Congrès, était sur le campus de Columbia. Il s'est fait accueillir par des cris, des sifflets. Mike, you suck. Mike, tu es nul. C'est le camp démocrate qu'il faut vraiment observer avec attention. Joe Biden a bien affirmé que l'antisémitisme n'avait pas sa place sur les campus, mais il fait un en même temps en disant il faut pas oublier la cause palestinienne. Il sera aujourd'hui à New York. Il n'a pas du tout l'intention de se rendre sur place pour tenter de voir la situation par lui-même. De l'autre côté, l'aile la plus extrême gauche du parti, parfois ouvertement antisioniste, comme Alessandra Horacio Cortez, qui est une élue de New York, prévient et anticipe déjà que déloger les étudiants qui, je cite, manifestent calmement, alors qu'on sait qu'ils manifestent avec violence, posera un véritable problème. Alessandra Horacio Cortez était hier soir dans les late shows américains. Et donc c'est elle la voix aujourd'hui du Parti démocrate, et cette voix n'est absolument pas pour protéger les étudiants juifs américains contre cet antisionisme et cet antisémitisme qui s'occupe sur les campus.
Alors, on parle de Columbia, mais ce n'est pas un événement isolé, malheureusement. Il y a d'autres universités qui sont impactées aux États-Unis, je crois, par ce climat d'antisémitisme, et ça touche aussi, vous allez nous le dire, David, le Mexique.
Non, c'est pas du tout isolé. Je peux pas vous faire la liste des campus occupés. Ça prendrait beaucoup trop de temps. En effet, le Mexique a été touché sur le modèle américain avec ce plantage de tentes et cette prise d'assaut des campus. Hier soir, sur la pelouse centrale d'Harvard à Boston, probablement la plus prestigieuse de toutes, elle a été assiégée. Il faut voir la manière dont ils opèrent. Je répète que tout cela est très bien ficelé, préparé, organisé, financé. Je continue d'enquêter sur ce qui permet à tous ces étudiants d'avoir des milliers de panneaux imprimés, des drapeaux, des keffiers, des banderoles, des tentes. Ça coûte de l'argent. Ces étudiants sont pour la plupart boursiers. Ils ne dépensent pas d'argent pour les piquer, pour la propagande pro-Hamas. Les slogans sont tous coordonnés. Les visuels sur les réseaux sont peaufinés. Le discours dès le 8 octobre était déjà calibré et les étudiants avaient déjà pris d'assaut le campus le 9 octobre et parlaient déjà de génocide. Donc encore une fois, penser que tout cela est organique, que ça va passer, c'est pas comprendre l'engrenage dans lequel ces étudiants sont entrés. Aujourd'hui, on parle de plus de 45 campus qui ont été investis avec des tentes. Vous avez parlé un peu plus tôt dans le journal de Sciences Po l'année dernière, ça a été désamorcé assez rapidement, mais ça risque d'arriver très rapidement dans d'autres capitales européennes.
Mais alors, comment expliquer justement cette résonance, David, le fait que voilà, ce phénomène se propage?
En fait, je pense tout simplement que ces étudiants-là ont dépassé le cadre de l'enfermement algorithmique. On n'est plus du tout isolé uniquement sur les réseaux sociaux. On est également isolé dans le cercle d'amis que l'on a. Et sur ces campus américains, ils ont d'ailleurs l'ordre de la part de SGP, dont je parlais un peu plus tôt, de ne pas s'adresser aux étudiants juifs qui pourraient être de la contradiction, de ne pas avoir de discussion ou de débat. On leur donne une propagande, des pamphlets qui sont extrêmement bien ficelés, extrêmement bien fournis, avec une rhétorique qu'ils assimilent et qu'ils prennent pour eux-mêmes, qu'ils arrivent à régurgiter. Ils arrivent à régurgiter ça très rapidement et très facilement parce qu'ils sont très intelligents. C'est pour eux la cause de leur génération, c'est la cause de leur de tous ces étudiants là comme leurs parents ou leurs grands-parents défendaient le l'anti-Vietnam. On est dans une situation où ils ont vraiment pris corps et âme pour cette cause-là. Ça va être très compliqué, même si on les déloge avec la police, ça va être très compliqué de déloger leurs esprits.
Alors pour terminer, pour conclure aussi, David, et vous souhaitiez en parler, c'est ce qui est déroutant, c'est la couverture médiatique aussi qui est faite autour de ces événements à l'Université de Columbia. En fait, on parle de manifestations pro-palestiniennes, on ne parle pas du tout de ces slogans antisémites qui sont scandés, de ces slogans pro-Hamas. Ça vous étonne?
Oui, c'est étonnant parce que en général, il y a quand même une certaine un esprit assez critique sur la manière de couvrir les actualités aux États-Unis. Là, on est vraiment dans une situation où ils essaient de faire du en même temps. Il n'y a pas du tout de manifestation pro-Israël ou si peu sur les campus, c'est extrêmement calme. Et pourtant, ils essaient de trouver le seul petit drapeau d'Israël qui pourrait être sur le campus pour faire des parallèles. Les médias américains tombent des nues. Ils sont dépassés par ce qui se passe, ne passent pas du tout des heures auprès de ces jeunes pour entendre leur véritable haine et la violence de leurs propos. Il faut rentrer dans leur cortège, les écouter parler entre eux pour comprendre à quel point c'est profond. Moi, je suis un éternel optimiste d'habitude, mais là, je ne vois pas pour l'instant encore la lumière dans cet orage que traverse l'Amérique. Peut-être que en voyant ça, la France et les autres pays vont prendre les devants. Ce qui est certain, c'est que je vous le disais, ça arrive et ça arrive très très vite en France. Et les médias américains, comme les médias français, je trouve, ne prennent pas du tout le sens de la gravité de ce qui est, de l'ampleur de ce qui est en train de se passer.
Eh bien, merci beaucoup, David Benahim. Merci pour toutes ces précisions, ces explications ce matin sur Radio J de ce qui se passe aux États-Unis. On vous retrouvera, je l'espère, très bientôt et on suivra attentivement cette situation et ces événements. Merci beaucoup. À bientôt.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Apprendre l'histoire et analyser l'actualité pour savoir répondre. C'est ce qu'organise la famille Veiller, Informer, Agir de l'organisation Génération Gamzon. Un atelier qui se tiendra ce jeudi 25 avril, aujourd'hui à 20h. Et pour en parler, nous sommes en direct en studio avec Bruno Piesanski, ancien éclaireur israélite, membre de Génération Gamzon et l'un des animateurs de la famille Veiller, Informer, Agir. Bonjour Bruno.
Bonjour Ilana.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors Génération Gamzon d'abord, il faut en parler pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un réseau d'indépendants pour les anciens éclaireurs israélites et sympathisants de l'association.
Tout à fait. C'est des anciens EI et des sympathisants des EI qui ont voulu se réunir parce que on reste EI pour la vie. Le scoutisme, on est toujours prêt. Ouais. Et on avait envie de rester prêt, ou avec la communauté, ou avec notre pédagogie pour continuer à faire des actions malgré notre âge.
Toujours proche des EI, effectivement. Et pour ceux qui nous regardent en vidéo, vous avez apporté votre totem ce matin.
Voilà, c'est mon foulard de Lille. Donc, chaque ville a comme dans tout le scoutisme mondial, chaque ville est représentée par des couleurs. Et moi, je suis Winnie l'ourson. Voilà, je suis totémisé Winnie l'ourson et je le porte avec fierté.
Bruno Winnie l'ourson. Alors c'est vrai que c'est au 100e anniversaire des EI que vous avez eu tous un petit peu ce sursaut, cette volonté d'organiser des choses. Hein.
Oui, même Génération Gamzon, l'idée est même venue au 90e. Et comme dans le monde juif, il faut parfois du temps pour que les choses se fassent. On s'est réveillé encore au 100e et au 100e, certains ont pris l'initiative de vraiment créer cette association de Génération Gamzon parce que c'était nécessaire. Depuis le 7 octobre, évidemment qu'on a été très fortement touchés. On s'est rendu compte très vite que c'était une guerre.
Ouais.
C'était une guerre de la communication et que dans cette guerre de la communication, chacun peut intervenir à son niveau. Et c'est pour ça qu'on a créé cette famille.
Alors en fait, c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'en fait, vous vous organisez par famille. Donc Génération voilà. Gamzon, en fait, c'est plusieurs familles. Hein, c'est
exactement.
Ça.
Au sein de Génération Gamzon, on multiplie les actions, on les a divisées par famille pour pouvoir s'organiser. L'une des familles qui a été très vite créée, c'est celle qui envoie des volontaires avec Sauvons l'Entre-Terre
des bénévoles.
En Israël, oui. Des volontaires bénévoles qui vont travailler dans les kibboutzim avec une association en Israël qui a été montée aussi par un ancien EI, ancien commissaire
David
général,
Jean.
David Jean. Voilà, on est en plus un réseau mondial et donc on s'organise avec ça. Cette famille, on s'est rendu compte dès le 10 octobre qu'il était absolument nécessaire de le faire. Alors, on n'est pas une énième tentative de tout ce qui est fait aujourd'hui au sein de la communauté ou en dehors de la communauté, tout est très bien.
Oui.
Chacun le fait avec sa volonté, avec ses armes. Nous, ce qu'on a voulu, c'est garder notre pédagogie EI, garder notre volonté d'être proche. Et c'est pour ça qu'on s'organise par rapport à ça avec d'un cycle de conférences avec des experts et des cycles d'ateliers. Et on alterne les ateliers.
Vous, votre famille est axée sur la lutte contre la désinformation.
C'est ça.
Voilà.
Nous, c'est le comportement sur les réseaux sociaux. Et pour ça, on a un expert en cybersécurité, Bernard, qui est référent et qui fait partie de l'équipe. On a des experts pour des conférences. La dernière conférence qu'on a faite était avec Caroline Yadan.
Qui est notre chroniqueuse d'ailleurs sur Radio
Que vous connaissez bien. la prochaine est fin mai avec Denis Charbit et peut-être un autre invité. Les experts, on les invite aux conférences.
D'accord.
Maintenant, ce qui nous intéresse dans ces conférences, c'est de garder une taille humaine. C'est-à-dire qu'on fera des conférences où on invitera maximum 100 personnes. Et ce qui nous intéresse dans les conférences et dans les ateliers, c'est que les gens repartent avec des choses concrètes.
Alors très rapidement, il nous reste vraiment très très peu de temps. Bruno, ce soir est organisé un atelier. Est-ce qu'on peut y participer?
Ce soir, il est complet.
Ah,
ce soir, il est complet. Mais nous avons un autre atelier le 2 mai.
D'accord.
Donc les gens qui sont intéressés par ces ateliers où on va travailler effectivement sur l'histoire, l'analyse de l'actualité et sur le savoir-répondre, ça va être la forme et le fond. C'est des ateliers très actifs. Le 2 mai, on a un autre atelier. Les gens vont sur le site de la Génération Gamzon et pourront avoir les coordonnées et s'inscrire.
Eh bien, merci beaucoup Bruno Bézanski, alias
Lana.
Winnie l'ourson, et à très bientôt sur Radio J.
Merci, au revoir.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci d'être avec nous. À présent, la chronique C'est bon pour la santé en direct avec le docteur Serge Raphaël. Bonjour docteur.
Bonjour Ilana.
Et ravi de vous retrouver. On espère que vous avez passé de belles fêtes de Pessard. Vous n'avez pas trop abusé sur les galettes, Serge, pour l'instant?
J'en mange toute l'année, Ilana.
C'est vrai, vous êtes quelqu'un de très healthy, de très sain. Alors c'est vrai qu'avec l'arrivée des fruits rouges, en particulier de la fraise sur les étals, vous souhaitiez, Serge, aussi insister ce matin sur leurs bienfaits santé aux fruits rouges et par conséquent revenir sur leur rôle anti-inflammatoire et antioxydant.
Oui, les fraises c'est important, on en consomme en gros 2 kilos par personne
quand même.
Par an. Voilà. Alors, j'ai souvent parlé à ce micro de l'intérêt d'une alimentation anti-inflammatoire, du rôle des antioxydants pour la santé. C'est le bon moment avec la saison des fraises pour revenir sur ces deux notions qui sont essentielles et complémentaires.
Alors, on parle d'abord de l'inflammation, il en existe deux types, hein. L'une est bénéfique, l'autre qui l'est beaucoup moins.
Oui, c'est ça. Vous avez raison. Il y a l'inflammation aiguë, puis l'inflammation chronique, et leurs effets sont diamétralement opposés. L'inflammation aiguë, c'est une réaction de protection de l'organisme face à une agression, un traumatisme, un virus, une bactérie. Elle est brève, locale, se manifeste sous forme de rougeur, chaleur, gonflement, douleur. L'inflammation chronique, elle est en revanche pathologique. Alors, elle apparaît dans de nombreuses maladies qu'elle déclenche, qu'elle aggrave, qu'elle entretient, que ce soit des maladies articulaires, des maladies intestinales, des maladies neurologiques. On l'observe également chez les personnes en surpoids ou obèses. Elle génère un risque accru de complications, diabète, syndrome métabolique, des maladies cardiovasculaires.
Alors, le rôle anti-inflammatoire et puis il y a le stress antioxydant.
Oui, alors il correspond lors de ce processus inflammatoire à une agression des cellules de l'organisme par des molécules particulières, les radicaux libres. Alors ces substances sont habituellement neutralisées par un service de voirie et de police de l'organisme, le système antioxydant. Et donc il y a une lutte permanente qui décide de la santé si les antioxydants prennent le dessus ou de la maladie si au contraire ils succombent sous le nombre et l'agressivité des radicaux libres.
Alors comment l'organisme lutte-t-il, Serge, contre cette inflammation et ce stress antioxydant?
La nature, vous le savez, Ilana, elle est finalement bien faite. Il existe une production endogène interne d'antioxydants qui permet de faire face à une libération filée de quelques radicaux libres. Si ceci, dans certaines circonstances pathologiques, la maladie, la prise de médicaments, la pollution, l'alcoolisme, le tabac, l'exposition exagérée au soleil, sont produits en trop grande quantité, ils vont déborder les défenses de l'organisme et l'agresser. Et celui-ci a alors besoin d'être aidé par des apports extérieurs, principalement alimentaires, dont précisément les fruits qui sont riches en vitamines et en substances antioxydantes.
Et c'est là qu'interviennent les fruits rouges, la fraise, la framboise, les fruits bleus aussi, le cassis, la mûre, la myrtille.
Voilà, en effet, alors ces fruits colorés sont riches en polyphénol. Polyphénol, c'est des composés chimiques qui sont capables de piéger, d'absorber les radicaux libres et donc de neutraliser le stress oxydant, de réduire l'inflammation et in fine de nous protéger. Alors, on trouve dans ce groupe des polyphénols, les flavonoïdes qu'on mange, qui sont également contenus dans la betterave, le chou rouge, les fruits rouges et bleus, la pomme. Et puis les tanins, c'est ceux qu'on boit. Alors, on les trouve dans le raisin, le vin rouge, le thé, un petit peu le café.
Quelle est la composition aussi? Alors, on s'interroge de la fraise. Je crois que c'est assez peu calorique, la fraise, Serge.
Oui, elle est intéressante car très très peu calorique. Vous voyez, c'est 35-38 calories pour 100 grammes, dont 4-5 grammes de sucre de bonne qualité, du fructose, du glucose, moins de 1 gramme de protéines, peu de sucre, pas de graisse. Une fraise, c'est 90% d'eau. Ça contient également 2 grammes de fibres tendres, les pectines, plus résistantes à la lignine, et des oligo-éléments. Il y a du calcium, il y a du fer, il y a du magnésium, il y a du potassium, il y a les vitamines B8 et B9, et surtout, il y a 2 de nos 3 vitamines antioxydantes, un petit peu de vitamine A, beaucoup de vitamine C, 60 mg pour 100 grammes, 60 mg, c'est l'équivalent d'un kiwi, parfois plus jusqu'à 90 mg, un petit peu de vitamine E. Et la framboise, elle a une composition très voisine et donc les mêmes propriétés.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge?
Vous avez compris, Ilana, l'importance, j'ai insisté là dans cette rubrique sur les antioxydants. C'est la saison des fraises, alors profitez-en, en choisissant de préférence les gariettes, à la forme allongée, caractéristique, à la chair juteuse et parfumée. Certes, elles sont plus chères, mais elles sont moins exposées aux polluants et aux pesticides.
Eh bien, manger des fraises et des framboises, c'est bon pour la santé.
Allez aux fraises.
Et bah oui, et puis en plus, c'est l'été, c'est l'occasion de faire de bonnes petites salades de fruits.
C'est vraiment la période.
Merci beaucoup Serge Raphaël, merci pour cette chronique, on vous retrouvera demain matin sur Radio J. Excellente journée.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Qui saura me faire oublier, dites-moi. Vous avez reconnu cette cette belle voix, nostalgie ce matin sur Radio J. Et oui, à l'écoute de Mike Brandt, né Moshe Michael Brand. Un hommage ce matin à celui qui nous a quittés en 25 avril à Chypre, le 25 avril 1975. Une voix qui a envoûté des millions de femmes, mais qui est partie beaucoup trop tôt, à seulement 28 ans, dans des circonstances assez troubles. Le sourire de Mike Brandt, qui cachait en effet beaucoup de souffrance, né en 1947, issu d'une famille de rescapés de la Shoah, immigré en Israël au moment de son indépendance. Mike Brandt, qui a grandi à Haïfa avec une passion, la chanson et les États-Unis. D'ailleurs, dès 1965, Moshe se fait appeler Mike et il voit son rêve de chanter aux États-Unis se réaliser alors qu'il a seulement 20 ans. Et puis, il rencontre en 1969 Sylvie Vartan et son secrétaire, l'artiste Carlos, qui tombent tous deux sous le charme des interprétations de Mike Brandt, qui l'invite à venir en France alors qu'il ne parle pas un seul mot de français. Seul et démuni, Mike Brandt persévère toutefois. Il enregistre un premier titre, Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer, la carrière de Mike Brandt est lancée, suivront C'est ma prière, Rien qu'une larme, Tout donné, Tout repris. Le jeune homme qui vend des milliers d'exemplaires, qui enchaîne les dates de tournée, mais qui lutte aussi contre la dépression. Et oui, il fait de mauvaises rencontres, il fait une tentative de suicide une première fois en 1974, puis une autre en 1975 qui lui sera fatale. Le 25 avril 1975, il se tue en sautant du 6e étage d'un immeuble du 16e arrondissement et on dit qu'il écoutait en boucle ce fameux titre Dis-lui, une chanson qu'il a enregistrée après sa première tentative de suicide. On lui rend hommage en tout cas ce matin à Mike Brandt. On ne l'oublie pas, Mike qui est enterré à Haïfa. Brandt, et oui, un hommage ce matin. Eh bien, c'est la fin de cette première édition sur Radio J. Je vous retrouve dès demain, dès 6h avec Eva Soto